Quand t'as dit que t'engagerais un avocat, tu ne te moquais pas du monde ? Ai-je fini par dire. Avec ce genre de fric, tu aurais pu engager Clarence Darrow, ou la vedette de l'époque. Pourquoi ne l'as-tu pas fait, Andy ? Christ, t'aurais pu sortir d'ici comme une fusée !
Il a souri. Le même sourire que lorsqu'il m'avait dit que sa femme et lui avaient toute leur vie devant eux.
Non. Un bon avocat aurait extirpé Williams de Cashman, qu'il le veuille ou non.
Je commençais à me laisser emporter.
T'aurais pu avoir ton nouveau procès, engager des détectives privés pour chercher ce type, Blatch, et faire sortir Norton de son trou par-dessus le marché. Pourquoi non, Andy ?
Parce que j'ai été trop malin pour mon propre bien. Si jamais j'essaye de toucher au fric de Peter Stevens avant de sortir d'ici, je perds jusqu'au dernier cent. Mon ami aurait pu arranger ça, mais Jim est mort. Tu vois le problème ?
Je voyais.
Pour le bien que ça lui faisait, le fric aurait pu appartenir à quelqu'un d'autre. En un sens, c'était vrai. Et si d'un coup les actions ne valaient plus tripette, Andy pouvait seulement assister à sa déconfiture, la suivre jour après jour sur les pages financières du Presse Herald. La vie est dure quand on ne sait pas plier, je trouve. Je vais te dire comment ça se passe, Red. Il y a un grand pré dans la commune de Buxton. Tu sais où se trouve Buxton, n'est-ce pas ?
Je savais. C'est tout près de Scarborough.
C'est ça. Et à l'extrémité nord de ce pré, il y a une muraille rocheuse sortie tout droit d'un poème de Robert Frost. Et quelque part au bas de cette muraille, il y a un rocher qui n'a rien à faire dans une prairie du Maine. C'est un morceau de lave vitrifié. Et jusqu'en 1947, c'était un presse-papier sur mon bureau. Jim l'a déposé là-bas. Il y a une clé dessous. La clé ouvre un coffre de la banque Casco, dans sa succursale de Portland.
Il me semble que les ennuis te pendonnaient, ai-je dit. Quand ton ami est mort, le fisc a dû faire ouvrir tous ses coffres avec son exécuteur testamentaire.
Andy a souri et m'a tapoté le crâne. Pas mal. Tu n'as pas que de la guimauve là-dedans, après tout. Mais nous avions prévu que Jim pourrait mourir pendant que j'étais au trou. Le coffre est au nom de Peter Stevens. Et une fois par an, le cabinet juridique qui a servi d'exécuteur testamentaire envoie un chèque à la Casco pour payer la location. Peter Stevens est à l'intérieur de ce coffre, prêt à sortir. Certificat de naissance, carte de sécurité sociale et permis de conduire. Le permis a expiré depuis 6 ans, quand Jim est mort, mais il suffit de $5 pour le renouveler. Les actions sont dans le coffre, avec les emprunts municipaux exonérés d'impôts, et environ 18 lettres de change au porteur de $10 000 chacune. J'ai poussé un sifflement. Peter Stevens s'est enfermé dans un coffre de la banque Casco, à Portland. Et Andy Dufresne est enfermé dans un coffre à Shawshank, a-t-il dit. Un prêté pour un rendu. Et la clé qui ouvre le coffre et la vie est sous une pierre noire dans un pré de Buxton. Comme je t'ai dit tout ça, je vais te dire autre chose, Red. Depuis 20 ans, plus ou moins, j'ai lu les journaux en guettant tout spécialement les projets immobiliers de la ville de Buxton. Je n'arrête pas de penser qu'un jour prochain, je vais lire qu'ils vont y faire passer une route, construire un hôpital ou un centre commercial, enterrer ma nouvelle vie sous 3 mètres de béton ou la jeter dans un marais avec une benne de gravats.
Jésus-Christ,
ai-je lâché.
Andy, si tout ça est vrai, comment fais-tu pour ne pas devenir fou ?
Il a souri. Pour l'instant, à l'ouest, rien de nouveau.
Mais ça peut durer des années.
C'est possible, mais peut-être pas autant que le croient l'État et le directeur Norton. Je ne peux pas me permettre d'attendre aussi longtemps. Je n'arrête pas de penser à Zihuatanejo et à ce petit hôtel. Maintenant, Red, c'est tout ce que j'attends de la vie, et je ne crois pas que c'est trop demandé. Je n'ai pas tué Glenn Quentin, et je n'ai pas tué ma femme. Alors cet hôtel, ce n'est pas trop demandé. Aller nager, se faire bronzer, dormir dans une chambre aux fenêtres ouvertes. De l'espace, ce n'est pas trop demandé. Il a jeté les pierres au loin. Tu sais, Red, a-t-il dit d'un ton indifférent, un endroit comme ça, il faudrait que j'aie un type qui sache se procurer un peu de tout.
J'ai réfléchi un bout de temps. Et dans ma tête, le principal obstacle n'était pas que nous étions en train de rêver dans la cour d'une petite prison merdeuse avec des gardes armés qui nous surveillaient depuis les miradors. Je je pourrais pas, ai-je répondu. Je pourrais pas m'en tirer à l'extérieur. Je suis devenu un mec intégré à la prison, comme on dit. Ici, je suis celui qui peut tout trouver, ouais. Mais dehors, n'importe qui peut le faire. Dehors, si tu veux un poster, ou un marteau, ou un disque, ou de quoi construire un bateau dans une bouteille, tu n'as qu'à prendre un putain d'annuaire. Ici, c'est moi, le putain d'annuaire. Je ne saurais pas par quoi commencer, ni par où. Tu te sous-estimes, a-t-il dit. Tu es un autodidacte, un self-made man. Un type assez remarquable, à mon avis. Bon Dieu, j'ai même pas le bac. Je sais, mais ce n'est pas un bout de papier qui suffit à faire un homme. Ce n'est pas la prison qui suffit à le briser, en plus. Dehors, Andy, je pourrais pas m'en tirer. J'en suis sûr. Il s'est levé. Pense-y, a-t-il répondu d'une voix tranquille, juste quand on a donné le coup de sifflet. Et il est parti en flânant, comme un homme libre venant de faire une proposition à un de ses semblables. Pendant quelques instants, cela suffit pour que moi aussi je me sente libre. Voilà ce dont il était capable. Andy pouvait me faire oublier un moment que nous étions tous les deux condamnés à perpète, à la merci d'une commission de faux cul et d'un directeur bigot qui voulait voir Andy rester là où il était. Un caniche capable de remplir des déclarations d'impôts. Quel animal merveilleux! Mais le soir, dans ma cellule, je suis redevenu un prisonnier. Tout m'a paru absurde, et ce rêve d'eau bleue et de sable blanc m'a paru plus cruel que stupide, planté dans mon cerveau comme un hameçon. J'étais tout simplement incapable de mettre cette cape invisible, celle d'Andy. Cette nuit-là, j'ai rêvé d'une grande pierre noire et luisante au milieu d'un pré, un rocher qui avait la forme d'une enclume géante. J'essayais de soulever la pierre pour atteindre la clé cachée dessous. Elle ne bougeait pas. Elle était trop énorme. Et au loin, se rapprochant, j'entendais les aboiements de la meute. Ce qui nous mène, me semble-t-il, à la question des évasions. Bien sûr, notre heureuse petite famille en connaît de temps en temps. Mais on ne fait pas le mur à Shawshank, quand on a un peu de jugeote. Les projecteurs tournent du soir au matin, fouillant de leurs longs doigts blêmes les prés qui entourent la prison sur trois côtés et les marais malodorants qui bordent le quatrième. Il y a bien des tôlards pour faire le mur, parfois, mais les projecteurs les trouvent presque à tous les coups. Ou bien ils se font pincer en essayant de faire du stop sur la 6 ou la 99. Quand ils veulent couper à travers champs, c'est un paysan qui les voit et se contente de téléphoner à la prison. Les tôlards qui font le mur sont des imbéciles. Shawshank n'est pas Cannon City, mais un type qui traîne son cul en race campagne et en pyjama gris se voit comme un cafard sur un gâteau de mariage. Au cours des ans, ceux qui s'en sont le mieux tirés, bizarrement, ou peut-être pas, sont ceux qui l'ont fait sur l'inspiration du moment. Quelques-uns sont partis dans un chargement de linge, un sandwich de forçat entre deux draps, pourrait-on dire. Il y en a fait pas mal quand je suis arrivé, mais depuis, ils ont plus ou moins colmaté cette brèche. Le fameux programme « Dedans-dehors » de Norton a produit sa moisson d'évasion, lui aussi. Il y avait des types qui aimaient mieux ce qu'il y avait à droite du trait d'union. Là aussi, dans la plupart des cas, c'était improvisé. Comme de laisser tomber son râteau et d'aller se promener dans les buissons pendant qu'un maton est allé boire un verre d'eau au camion ou que deux autres se disputent sur une ligne franchie ou non par les vieux de l'équipe Boston Patriots. En 1969, les dedans-dehors ramassaient des patates à Sabatus. C'était le 3 novembre. La récolte était presque faite. Il y avait un gardien qui s'appelait Henry Pugh et qui n'appartient plus à notre heureuse petite famille, croyez-moi, assis sur le pare-choc arrière d'un des camions. Il était en train de déjeuner, sa carabine sur les genoux, quand un splendide cerf d'Icor, d'après ce qu'on m'a dit, mais certains exagèrent, est sorti du brouillard. Pugh a couru après, voyant d'avance l'allure qu'aurait ce trophée dans sa salle de jeu. Et pendant ce temps, trois des hommes confiés à ses soins se sont éclipsés. On en a repris deux dans un bowling de Lisbon Falls. Le troisième court encore. Le cas le plus célèbre, à ce que je crois, est celui de Sid Nedeau. Cela remonte à 1958, et je ne pense pas qu'on fera jamais mieux.
Sid était dans la cour et traçait les limites du terrain pour le match de baseball du samedi suivant quand le sifflet de 3 heures a retenti, signalant la relève des gardiens. À 3 heures, le portail s'ouvre. Les gardiens qui arrivent et ceux qui s'en vont se croisent à l'entrée. Abondance de claques dans le dos, de chahutages, de comparaisons d'équipes de bowling et le nombre habituel de vieilles blagues racistes usées jusqu'à la corde. Sid a tout simplement fait rouler sa machine à tracer et passer le portail, laissant une bande blanche de 10 cm de large depuis le 3e piquet du terrain jusqu'au fossé de l'autre côté de la route 6, où on a retrouvé la machine renversée dans un tas de poudre blanche. Ne me demandez pas comment il a fait. Il portait l'uniforme de la prison, il mesurait plus d'1,80 m et sa machine crachait un nuage de poussière blanche. Je peux seulement imaginer, comme c'était un vendredi après-midi, que les gardes relevés étaient si contents de partir, les gardes de relève si tristes de rentrer, que les premiers avaient la tête dans les nuages tandis que les seconds n'ont pas levé le nez, et que le vieux Sid Nedeau est en quelque sorte passé entre les gouttes. Pour ce que j'en sais, Sid est toujours dehors. Andy et moi, au fil des ans, nous en avons souvent reparlé en riant, et quand nous avons appris l'histoire du pirate de l'air, celui qui a sauté en parachute avec la rançon par la porte arrière de l'avion, Andy a juré que D.B. Cooper s'appelait en réalité Sid Nedeau. Et il avait probablement une poche pleine de craie blanche pour se porter chance, a ajouté Andy. Vénard de fils de pute. Mais vous comprenez que des histoires comme celle de Sid, ou celle du gars qui s'est taillé du champ de patates à Sabatus, sont l'équivalent pour les tollards du gros lot de la loterie. Comme une demi-douzaine de coups de chance coagulés au même instant. Un type du genre d'Andy pouvait attendre un siècle sans qu'il se passe rien. Vous vous souvenez peut-être que j'ai mentionné, il y a un bout de temps, un certain Henley Backus, le contremaître de la blanchisserie. Il est entré à Shawshank en 1922 et il est mort à l'infirmerie de la prison 31 ans plus tard. Il avait la marotte des évasions et des tentatives d'évasion. Peut-être parce qu'il n'a jamais osé se lancer lui-même. Il pouvait vous raconter une centaine d'idées différentes, toutes plus cinglées les unes que les autres, et toutes mises en pratique à Shawshank à un moment ou à un autre. Mon histoire préférée était celle de Beaver Morrison, un détenu qui a voulu construire un planeur dans le sous-sol de la fabrique de plaques. Ses plans venaient d'un livre publié vers 1900, un guide de l'aventure et de la découverte pour les garçons modernes. Il l'a construit à partir de rien, sans se faire prendre. En tout cas, c'est ce qu'on dit, pour découvrir à la fin que le sous-sol n'avait pas de porte assez grande pour laisser sortir son foutu engin. Quand Henley racontait l'histoire, on manquait de crever de rire, et il en connaissait une douzaine, non, deux douzaines d'aussi drôles. Quand il s'agissait de faire le détail, Henley connaissait ses évasions chapitre par chapitre, verset par verset. Il m'a dit une fois que depuis qu'il était là, il avait entendu parler de plus de 400 tentatives. Réfléchissez un instant avant de hocher la tête et de continuer à lire. 400 tentatives d'évasion. Cela donne 12,9 tentatives par an, dont Henley Backus avait eu connaissance. Le club de la tentative d'évasion du mois. Naturellement, la plupart étaient des trucs bâclés. Le genre d'histoire qui se termine avec un garde qui attrape le bras d'une pauvre larve en grondant « Espèce d'imbécile heureux, où tu crois aller comme ça ?» D'après Henley, une soixantaine pouvait être considérée comme sérieuse, y compris l'évasion en masse de 1937, l'année d'avant mon arrivée. Le bâtiment administratif était encore en construction et 14 prisonniers se sont fait la malle en se servant des outils laissés dans un hangar mal fermé. Tout le sud du Maine a été pris de panique devant ces 14 criminels endurcis, dont la plupart crevaient de trouille et ne savaient pas plus où aller qu'un lapin sur la grande route quand il est pris dans les phares d'un énorme camion. Pas un seul n'a pu s'échapper. Deux ont été abattus. Par des civils, pas des flics ni des matons. Mais pas un ne s'en est sorti. Combien s'en étaient sortis entre 1938, l'année où je suis arrivé ici, et ce jour d'octobre où Andy m'a parlé pour la première fois de Zihuatanejo? En combinant mes informations avec celles d'Henley, je dirais une dizaine. 10 évadés pour de bon. Et même si on n'est jamais sûr de ce genre de choses, je suppose que la moitié au moins sont détenus dans d'autres institutions à travers le pays. Parce qu'on s'intègre effectivement à la prison. Retirez sa liberté à un homme et apprenez-lui à vivre dans une cellule, il perd la faculté de penser en trois dimensions. Il devient comme ce lapin que j'ai mentionné, figé dans les phares du camion qui va l'écraser. Deux fois sur trois, un tôlard qui vient de sortir se lance dans un coup qui n'a pas la moindre putain de chance de réussir. Pourquoi ? Parce que ça va le renvoyer au trou. Là où il comprend comment ça se passe. Andy n'était pas comme ça. Mais moi, oui. L'idée de voir le Pacifique me paraissait merveilleuse, mais je craignais qu'une fois là-bas, je ne sois mort de trouille, devant l'immensité. En tout cas, le jour où nous avons parlé du Mexique et de Monsieur Peter Stevens, ce jour-là, j'ai commencé à me dire qu'Andy avait l'intention de faire un numéro d'escamotage. Je priais Dieu pour qu'il s'y prépare du mieux possible, si c'était le cas. Et pourtant, je n'aurais pas misé un sou sur ses chances de réussir. Norton, il faut le savoir, le tenait tout spécialement à l'œil. Pour lui, Andy n'était pas seulement un abruti de plus avec un numéro. C'était une sorte de collaborateur, pourrait-on dire. De plus, Andy avait une tête bien faite et du courage. Norton était décidé à employer l'une et à écraser l'autre. De même qu'il existe à l'extérieur des politiciens honnêtes, ceux qu'on achète une bonne fois, il y a des gardiens de prison honnêtes, à condition de savoir juger un homme et d'avoir de quoi lui graisser la patte. Je suppose qu'on pourrait se payer suffisamment de cécité momentanée pour une évasion. Je ne vous dirai même pas que ce n'est jamais arrivé, mais Andy Dufresne en aurait été incapable. Parce que Norton, je vous l'ai dit, ne le lâchait pas. Andy le savait. Et les matons aussi. Personne ne l'inscrirait jamais au programme « Dedans-dehors », pas tant que le directeur Norton superviserait les inscriptions. Et Andy n'était pas du genre à essayer l'évasion désinvolte à l'acide Nedo. Si j'avais été lui, l'idée de cette clé m'aurait torturé sans arrêt. J'aurais eu la chance si j'avais pu fermer l'œil 2 heures par nuit. Buxton était à moins de 50 kilomètres de Shawshank. Si proche et si loin. Je croyais encore que sa meilleure chance était d'engager un avocat et d'essayer de faire réviser son procès. N'importe quoi pour ne plus être sous la coupe de Norton. On pouvait peut-être faire taire Tommy Williams avec quelques pique-niques dans la soie, mais je n'en étais pas complètement sûr. Un bon vieil avocat coriace du Mississippi arriverait peut-être à le faire craquer. Et il n'aurait peut-être même pas besoin d'employer les grands moyens. Williams, sincèrement, avait bien aimé Andy. De temps en temps, j'exposais mes arguments à Andy qui se contentait de sourire, les yeux dans le lointain. Il me disait qu'il y penserait. Apparemment, il a aussi pensé à pas mal d'autres choses. En 1975, Andy Dufresne s'est évadé de Shawshank. Il n'a pas été repris et je ne crois pas qu'il le sera jamais. En fait, je ne pense pas qu'Andy Dufresne existe encore. Mais je me dis qu'à Zihuatanejo, au Mexique, il y a un certain Peter Stevens qui, en l'an de notre Seigneur 1976, tient probablement un petit hôtel tout neuf. Je vais vous dire ce que je sais et ce que je crois. Je ne peux pas faire mieux, n'est-ce pas? Le 12 mars 1975, les cellules du bloc 5 s'ouvrirent à 6 heures, comme chaque matin sauf le dimanche. Et comme tous les jours sauf le dimanche, les occupants de ces cellules s'avancèrent dans le couloir et se mirent en rang pendant que les portes se refermaient en claquant. Ils marchèrent jusqu'à la grille principale de la division où deux gardiens les comptèrent avant de les envoyer au réfectoire pour un petit déjeuner de bouillie d'avoine, de brouillé et de bacon graisseux. Tout se passa de façon routinière jusqu'au comptage de la grille. Ils auraient dû être 27. Ils n'étaient que 26. Après avoir prévenu le capitaine des gardes, on les laissa descendre au réfectoire. Le capitaine, un type pas trop méchant qui s'appelait Richard Gognard, et son assistant, un connard nommé Dave Burks, se rendirent aussitôt au bloc 5. Gognard a fait rouvrir les cellules et parcourut le couloir avec son aide, cognant les barreaux à coups de matraque, le revolver à la main. Dans un cas de ce genre, on trouve d'habitude un gars tombé malade pendant la nuit, trop malade pour sortir de sa cellule. Ou, plus rarement, quelqu'un est mort ou s'est suicidé. Cette fois, ils ne trouvèrent ni mort ni malade, mais un mystère. Personne. Il y avait 14 cellules dans la division, 7 de chaque côté, toutes propres. À Shawshank, une cellule sale peut vous priver de visite, et toutes parfaitement vides. Gognard pensa d'abord qu'on avait mal compté, ou qu'on lui faisait une mauvaise blague. Donc, au lieu d'aller travailler après manger, les détenus furent renvoyés à leur cellule, souriants et ravis. Une interruption de la routine est toujours la bienvenue. Les portes s'ouvrirent, les prisonniers entrèrent, les portes se refermèrent. Un clown hurlait
« Je veux mon avocat! Je veux mon avocat! Vous dirigez cet endroit comme une putain de prison !»
Burks
« Ferme-la ou je te nique !»
Le clown
« J'ai niqué ta femme, Burky !»
Gognard
« Fermez-la, vous tous, ou vous passez toute la journée là-dedans !»
Ils remontèrent le couloir en comptant les têtes. Ils n'eurent pas à chercher bien longtemps.
« Qui est cette cellule ?»
demanda Gognard au gardien de l'équipe de nuit.
« À Andrew Dufresne !»
répondit le nocturne. Et c'était parti. Dès cet instant, la routine fut mise en miettes. La fusée avait décollé. Dans tous les films que j'ai vus, la sirène se déclenche dès qu'on signale une évasion. À Shawshank, cela n'arrive jamais. La première chose qu'a faite Gognard a été de prévenir le directeur. La seconde a été d'organiser une fouille de la prison. La troisième, d'alerter la police d'État de Scarborough. C'était la routine. Elle ne prévoyait pas une fouille de la cellule du suspect, et donc personne ne s'en est avisé. Pas encore. Pourquoi faire? Il n'y avait rien de plus à voir. Une petite pièce carrée, des barreaux à la fenêtre et une grille coulissante en guise de porte. Un WC et une couchette vide. Quelques jolis cailloux sur le rebord de la fenêtre. Et l'affiche, bien sûr. C'était Linda Ronstadt à l'époque. Elle était juste au-dessus de la couchette. Il y avait une affiche à cet endroit précis depuis 26 ans. Et quand quelqu'un, il s'avéra que ce fut Norton lui-même, bel exemple de justice poétique, a regardé derrière, il a eu un sacré choc. Mais ce n'est pas arrivé avant 6h30 du soir, presque 12 heures après qu'Andy eut été signalé manquant, probablement 20 heures après son évasion. Norton a sauté au plafond. J'ai mes informations de bonne source. Chester, le détenu classé, qui cirait le sol de l'administration ce jour-là. Et ce jour-là, il n'a pas eu à polir un trou de serrure avec son oreille. Il m'a dit qu'on pouvait entendre le directeur jusqu'au fond des archives pendant qu'il mettait Gognard sur le grill.
« Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai la certitude qu'il n'est pas dans les limites de la prison. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne l'avez pas trouvé? Vous feriez mieux de le trouver. Vous avez intérêt. Parce que je le veux, vous m'entendez? Je le veux !»
Gognard a dit quelque chose.
« Pas arrivé pendant votre service ? C'est ce que vous dites. Pour ce que j'en déduis, personne ne sait quand c'est arrivé, ni comment, ou si c'est vraiment arrivé. Ceci dit, je veux le voir dans mon bureau à 3 heures, où des têtes vont tomber. Je peux vous le promettre, et je tiens toujours mes promesses. »
Gognard a émis quelque chose, ce qui a encore augmenté la fureur de Norton.
« Non !» Alors regardez ça, vous le reconnaissez? Le pointage d'hier soir pour le bloc 5. Tous les détenus présents. Dufresne a été bouclé hier soir à 9h et il est impossible qu'il soit parti. C'est impossible! Maintenant, trouvez-le!